Bonjour, vous êtes sur les ondes de Radio Campus Amiens 87.7 et vous écoutez Info Club Sandwich. En ce lundi 15 décembre, nous sommes en studio avec Colline et notre nouvelle stagiaire Luce à la technique. Côté micro, Aline est avec notre invitée Émilie Messian pour vous parler du beffroi d'Amiens, symbole amiennois rempli d'histoire. Et je te laisse la parole, Aline.
Merci Julien. Alors Émilie, vous êtes directrice déléguée au patrimoine d'Amiens Métropole. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, on va revenir sur l'histoire du monument. Pourquoi on construit un beffroi à Amiens au XIIe siècle, tout simplement, et qui aussi en est à l'origine?
Alors, le beffroi n'est pas un phénomène isolé. Il en existe de nombreux, notamment dans notre région des Hauts-de-France et dans les Flandres. Ces beffrois sont synonymes des libertés communales qui sont acquises par les habitants des villes au Moyen-Âge, ici à Amiens au XIIe siècle. Ces beffrois, nous pouvons les considérer comme les premiers hôtels de ville et les premiers bâtiments de justice de la ville. C'est donc un bâtiment civil qui témoigne d'une période très forte de l'histoire d'Amiens.
Et c'est quoi justement la commune? Est-ce qu'on peut refaire un petit aparté historique? Qu'est-ce que c'est un bâtiment communal? Comment on passe de ça à la commune?
D'accord. Eh bien, les villes sont pendant longtemps sous le joug d'un pouvoir seigneurial. À Amiens, il y a également un deuxième pouvoir qui s'exerce dans la cité, c'est celui de l'évêque, puisque notre ville dispose d'une cathédrale. C'est l'église mère d'un diocèse. Et donc, à l'époque, l'évêque exerce un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir temporel. La ville est donc divisée entre deux zones, une zone sous l'autorité religieuse, sous l'autorité de l'évêque, et une zone sous l'autorité du seigneur. Et puis arrive une période de prospérité au XIe et au XIIe siècle qui fait que les bourgeois de la ville, donc les habitants du bourg, on va dire l'élite de la cité amiennoise, sollicitent son autonomie et souhaitent gérer de manière autonome, notamment les affaires commerciales, décider des marchés, décider de la fixation des prix, des marchandises. Et donc, ils vont solliciter leur autonomie au travers d'une charte communale que peut octroyer le seigneur, en l'occurrence ici le comte d'Amiens. Ce dernier s'y refuse à l'époque, en 1113-1114, et s'ensuit une forme de guerre civile pendant plus de 3 ans. Conflit pour lequel les habitants d'Amiens vont obtenir le soutien du roi lui-même, Louis VI le Gros, et de l'évêque d'Amiens, Geoffroy, qui figure encore sculpté sur la façade de notre hôtel de ville actuel. C'est donc en 1117 que les habitants d'Amiens obtiennent enfin leur première charte communale. Et le premier privilège, quand on obtient une charte communale, c'est celui de disposer d'une cloche. Pourquoi la cloche? Parce que la cloche va sonner les heures des réunions. Donc elle symbolise plus largement la liberté de se réunir. Cette cloche, on l'appelle la banc-cloque. Aujourd'hui, on dit encore, quand on se marie, on va publier les bans. La banc-cloque, c'est la cloche. Voilà,
ça vient de ça, ok.
Tout à fait. Et donc le beffroi a comme pour première fonction, finalement, d'appendre cette cloche. D'ailleurs, le mot beffroi, c'est un mot générique en architecture. On trouve des beffrois dans les églises. En fait, le beffroi est la structure qui permet d'appendre la cloche dans un bâtiment. Et ce beffroi va avoir une fonction beaucoup plus large, dont on va peut-être reparler au cours de cette émission. En tous les cas, un premier beffroi est érigé en centre-ville, à immédiate proximité de l'ancien Castillon, donc la place forte du comte d'Amiens, qui est arasée au sortir de cette lutte qui s'est déroulée à Amiens pendant plusieurs années. C'est donc en plus un emplacement extrêmement symbolique qui est celui-ci. En lieu et place du Castillon, on bâtit à proximité le premier beffroi qui symbolise la liberté de gestion de la ville.
Donc cette liberté, elle est très importante pour les habitants d'Amiens. Alors justement, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, à quoi ça sert un beffroi? Il y a eu des fonctions totalement différentes de ce bâtiment. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles ont été ces fonctions dans les différents siècles?
Eh bien, en premier lieu, comme je vous le disais, le beffroi sert d'abord à accueillir là où les cloches, puisqu'au cours de son histoire, le beffroi a accueilli une cloche, puis 4, puis une énorme cloche, et aujourd'hui un carillon de 30 cloches. C'est donc avant tout un bâtiment, on va dire, campanaire, ces cloches ayant diverses fonctions. On peut en reparler également si vous le souhaitez. Mais ce beffroi a également eu d'autres usages, puisque à la première tour très certainement en bois avec peut-être un soubassement de pierre, a succédé très rapidement au cours du Moyen-Âge un bâtiment en pierre, donc qui permet aussi d'installer des fonctions à l'intérieur, de disposer d'une distribution d'un certain nombre de pièces. Donc ce beffroi a servi à accueillir le mailleur et ses échevins, le mailleur étant l'ancêtre du maire et les échevins les conseillers municipaux, avec une salle de l'échevinage, donc destinée à émettre des avis, des arbitrages sur la gestion de la ville, à exercer également justice, puisque les bourgeois de la ville, la commune, obtient le droit aussi d'exercer justice. Et donc, on vient juger les habitants au beffroi. Et qui dit jugement, dit cellule, pour pouvoir accueillir les personnes en attente d'un jugement. On va dire que ce sont les cellules de garde à vue, principalement, que l'on retrouve ici au beffroi, avec une quinzaine de pièces destinées à cet effet.
D'accord, donc prison, tribunal en quelque sorte.
Oui, et par ailleurs d'autres fonctions qui sont plus extérieures, la fonction de point de surveillance. Le beffroi est un point haut, c'est un des points les plus hauts de la cité après la cathédrale, et donc il sert de tour de guet. Vous allez trouver un chemin de ronde en terrasse, et puis au sommet du beffroi, ce que l'on appelle un lanternon, donc une petite guérite, si je puis dire, qui permet à un guetteur de surveiller la survenance d'éventuels incendies dans la ville ou l'arrivée d'éventuels ennemis.
Mmh. Le beffroi que l'on voit aujourd'hui commence vraiment à prendre forme au XVe siècle. Qu'est-ce qui caractérise cette grande reconstruction médiévale? Quels sont les grands moments, les grandes formes architecturales que l'on peut voir?
Alors, il est vrai que notre beffroi a une histoire un peu compliquée. Pour la résumer, il a brûlé environ tous les 200 ans. Depuis les prémices de son histoire, le dernier incendie en date étant celui de mai 1940, lorsque la ville est bombardée le beffroi incendié, perdant donc son campanile pendant de très longues années, puisqu'il ne va être reconstruit qu'en 1989 et 90. C'est la restauration du beffroi qui va marquer la dernière reconstruction, la dernière touche apportée à la seconde reconstruction d'Amiens. Effectivement, au XVIe siècle, le beffroi va changer de physionomie. Le beffroi que l'on connaissait alors disposait d'une toiture très pentue, en bois, très ouvragée, dans le style des beffrois des Flandres ou du nord de la France que l'on connaît encore aujourd'hui et qui sont inscrits avec notre beffroi sur la liste du patrimoine mondial. C'était un bâtiment donc très haut, moins massif qu'aujourd'hui, et qui était surnommé alors la seringue de Gargantua.
Pourquoi la seringue de Gargantua?
Du fait de son clocher extrêmement haut et pointu.
D'accord. Donc, vous l'avez dit, ce monument a brûlé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que ce bâtiment, en fait, s'est toujours relevé, a toujours été reconstruit, a toujours...
Eh bien, ce bâtiment, au-delà de ses usages fonctionnels, revêt une symbolique extrêmement forte. Il témoigne dans la ville de l'autonomie du pouvoir civil. Et quelles qu'aient été les époques, il a toujours effectivement été rebâti, même quand ses fonctions n'ont plus été d'accueillir le conseil des échevins et du mailleur, parce que la salle s'est vite avérée extrêmement petite et finalement un premier hôtel de ville va être construit dès la fin du Moyen-Âge. Donc c'est principalement pour sa fonction symbolique qu'il va être reconstruit. Et puis, de manière très pragmatique, c'est un point de surveillance extrêmement important dans la ville.
Tout à fait. Vous l'avez dit un peu plus tôt, tout s'effondre en mai 1940. Comment les Aminois et Aminoises vivent la destruction du beffroi pendant la guerre? Et j'aimerais bien un petit peu qu'on parle de la statue Schlange, de tout ça, et notamment aussi de la grosse cloche qu'on appelle un bourdon, qui s'appelle Marie Firmine.
Tout à fait, vous connaissez bien votre histoire, Damien.
J'ai un petit peu étudié avant.
Alors, il y a plusieurs questions
tout à fait.
En une.
on peut commencer par justement cet effondrement en 1940. Qu'est-ce que les Aminois et Aminoises ont pu ressentir à ce moment-là?
Forcément, la destruction du patrimoine marque émotionnellement les habitants, puisque le beffroi faisait partie des marqueurs très forts du paysage. Par ailleurs, il incarne aussi une histoire multiséculaire, de la ville. Donc forcément, cela a eu un impact émotionnel extrêmement prégnant, tant et si bien que lorsqu'Auguste Perret construit la tour Perret, il l'imagine comme un nouveau beffroi finalement, avec une tour d'horloge, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il est vrai également que le beffroi marque le temps civil dans la ville. Les églises vont marquer le temps religieux, elles vont sonner les heures des offices religieux. Le beffroi, quant à lui, est le premier marqueur de temps civil dans la cité. Il dispose de 4 cadrans d'horloge et ses cloches vont sonner les débuts, la fin de la journée, les heures, ce que ne font pas forcément les autres édifices. Et donc la tour Perret, lorsqu'elle a été érigée, a été pensée comme un nouveau beffroi, comme un nouveau bâtiment vertical qui donnait à voir la renaissance d'Amiens, de ses cendres, et puis un nouveau marqueur de temps et marqueur de paysage. Mais il n'empêche, les Amiénois ont été tout de même plus attachés au beffroi qu'à la tour Perret. Mais le sablier de verre qui aujourd'hui surplombe la tour Perret participe de cette idée, en fait,
oui,
de marqueur de temps civil, parce que ce sablier est censé indiquer les heures. Vous avez 12 portions qui composent le cube qui surplombe la tour Perret et qui marque le passage des heures.
Exactement. Et en 1940 aussi, les Amiénois et Amiénoises perdent Marie Firmine. Mm-hmm. Qui est cette Marie Firmine? J'ai adoré cette histoire.
Alors Marie Firmine, on l'a surnommée la forte chanteuse. La forte chanteuse, c'était la cloche du beffroi. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, le beffroi a connu plusieurs successions de cloches, en fonction également de ses incendies, puisque qui dit haute température dit cloche qui va fondre. Et donc, il faut aussi doter systématiquement, après ces incendies successifs, le beffroi de nouvelles cloches. Le beffroi, pendant longtemps, a connu 4 cloches. D'ailleurs, c'est l'étymologie de carillon. Quand on imagine un carillon, on imagine un grand ensemble de cloches. Étymologiquement, un carillon signifie 4 cloches. Il y avait une cloche pour les ouvertures et les fermetures de marché, les cloches pour les dangers, les grands événements, une cloche pour le début, la fin de la journée, marquer les heures, etc. Ces cloches, elles ont été remplacées au XVIIIe siècle par une énorme cloche qui a donc été baptisée la Marie Firmine, puisque ces cloches sont bénies. Et donc, elle va être dénommée la Marie Firmine en hommage à Saint Firmin, qui est le premier évêque dans l'histoire du diocèse amiénois. Et cette Marie Firmine, on dit qu'on pouvait l'entendre entre 15 et 20 kilomètres à la ronde, tant elle était grosse. Et d'ailleurs, c'est cette cloche qui va totalement modifier l'agencement intérieur du beffroi. Quand on découvre le beffroi de l'extérieur, on voit une base quadrangulaire, et alors qu'en fait, à l'intérieur, tout est organisé autour du cercle, autour de ce qu'on appelle un oculus, donc une percée circulaire, qui littéralement éventre le beffroi en son sein. Et tous les étages ont été percés pour pouvoir acheminer cette cloche. Lorsque vous vous trouvez place au fil, près du puits que l'on trouve sur cette place, vous regardez la façade du beffroi qui se dresse devant vous, eh bien vous allez apercevoir la forme de la Marie Firmine, parce qu'il a fallu ouvrir l'une des faces du beffroi pour faire entrer cette cloche. Il y a d'ailleurs une cellule qui s'appelle la salle de la cloche. Cette cloche, on va la hisser au centre du rez-de-chaussée. Et ensuite, tous les planchers ont été ouverts de manière à acheminer cette cloche jusqu'au sommet. Et donc, cette énorme cloche, la Marie Firmine, malheureusement, va se fracasser lors de l'incendie de 1940. Il en reste encore de nombreux fragments qui sont disposés au rez-de-chaussée du beffroi et que l'on peut encore découvrir aujourd'hui.
Et depuis le décès de Marie Firmine en 1940 et jusque les années 2000, le beffroi ne sonne plus.
Oui, le beffroi est resté muet, effectivement.
Exactement. Donc, en 2000, le beffroi retrouve une voix grâce à un carillon. C'est quoi un carillon? Du coup, c'est ces 4 cloches, c'est tout. Quel est l'intérêt d'un carillon?
Alors, historiquement, le carillon est effectivement un ensemble de 4 cloches. Mais cet ensemble va s'enrichir au fur et à mesure des siècles. C'est tout l'apport de l'histoire. Et aujourd'hui, ce sont des ensembles plus conséquents qui composent des carillons. Celui d'Amiens est composé d'une trentaine de cloches. Donc historiquement, le beffroi d'Amiens n'avait jamais sonné de mélodie pour les habitants. Et depuis 2000, effectivement, il peut jouer quelques airs que l'on dit maintenant historique, parce que ça fait 25 ans, l'histoire se fait assez rapidement. Mais effectivement, la ville d'Amiens, lors de la restauration du Beffroi en 89-90, a travaillé à la réfection du campanile du Beffroi, qui permettait donc de pouvoir accueillir de nouveau une cloche. Mais le Beffroi est resté muet jusqu'en 2000, où il est décidé finalement de commander à une célèbre famille de fondeurs de cloches, les Paccard, une série d'abord de 25 cloches. Enrichi l'année suivante, en 2001, de 5 nouvelles cloches. Et donc, cet ensemble va permettre, enfin, de redonner une voix au Beffroi et de faire entendre ce temps civil, historique, dans la ville. Donc, il y a un certain nombre de ritournelles, ce sont les airs traditionnels des Beffroi, qui ont été retenus pour animer la ville à cette époque.
Et justement, il y a eu de nouvelles compositions de ritournelles en 2025. On s'écoute rapidement la ritournelle du soir. Alors, vous venez d'entendre la ritournelle du soir, en tout cas un extrait. C'est les mélodies que les Amiénois et Amiénoises peuvent entendre. Qu'est-ce que ça signifie et comment on fait ce choix-là? Comment on choisit ces morceaux que les Amiénois et Amiénoises peuvent entendre toute la journée presque?
Alors, les premières ritournelles retenues en 2000 sont des airs traditionnels de la région. Donc, il a été choisi de jouer « Mon petit oiseau » à la volette. C'est la ritournelle la plus connue du Beffroi parce qu'elle sonne toutes les heures. Puis elle est très dynamique, enjouée. C'est un très joli air. Il y a également « Belleville, Ménilmontant » d'Aristide Bruand. Et puis, il y avait une autre ritournelle qui n'a pas été conservée. Cette année, c'était Horace Picard.
Oui.
Et finalement, Monsieur le maire a souhaité cette année associer les jeunes Amiénois pour qu'une transmission de ce patrimoine se fasse et a donc sollicité les élèves du conservatoire d'Amiens pour créer de nouvelles ritournelles au Beffroi. Ce sont donc les classes de composition et de piano du conservatoire à rayonnement régional qui ont travaillé à la création de nouvelles ritournelles soumises ensuite au vote des Amiénois. Et trois ritournelles sont sorties du lot et ont donc été intégrées au répertoire quotidien du Beffroi d'Amiens. Depuis vendredi dernier, le Beffroi a donc retrouvé pleinement ça, on peut même dire ses voix, avec ses 30 cloches.
Et il y a aussi un autre élément qui, moi, m'a intéressée dans la documentation, c'est les nombreux graffitis. Ils racontent la vie du Beffroi. Mmh. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter à nos auditeurs, quelque chose qui pourrait mettre en lumière ça?
Oui, moi, c'est ce que j'aime tout particulièrement au Beffroi. C'est que le Beffroi a son histoire, l'histoire de son architecture, l'histoire de la commune, mais le Beffroi partage aussi l'histoire. Il est support à découvrir l'histoire du Royaume de France, au travers des grands événements historiques, la lutte entre catholiques et protestants, les guerres, etc. L'histoire locale et l'histoire des hommes. Donc il est aussi porteur de cette histoire-là, à plusieurs échelles. Et c'est cette échelle plus humaine qui est hyper intéressante, parce qu'on découvre des centaines de graffitis dans les cellules du Beffroi, de toute période. Donc on va retrouver les noms de soldats qui ont été enfermés au Beffroi et qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs cellules. On retrouve traces, beaucoup d'images en lien avec la rédemption, avec la faute, puisqu'on attendait justice au Beffroi. Donc on a des monts de Golgotha, Adam et Ève, des figures d'évêques, mais on a aussi les cagoules des bourreaux qui sont gravées dans la pierre. Et donc la crainte de la peine aussi qui peut attendre ces personnes en attente de jugement. Et on trouve des graffitis plus récents, par exemple dans la cellule dite des Australiens, une trace laissée par un soldat australien, puisqu'Amiens était une ville d'arrière-front et on venait s'y reposer. Donc disons que les cellules ont pu servir de cellules de dégrisement à une certaine période. Il y a même un graffiti qui indique « enfermé pour cause de soulographie ».
Soulographie.
Soulographie.
J'adore. Ah ouais. Je pense que je vais essayer d'utiliser ce mot plus très, très souvent.
Et c'est vrai que l'histoire des graffitis vaudrait la peine d'être étudiée. Je lance un appel aux étudiants qui seraient intéressés parce qu'on y découvre à la fois le témoignage de l'histoire d'Amiens, mais celle aussi de l'histoire de ces hommes.
Tout à fait.
Locaux ou étrangers.
Cette année, le Beffroi célèbre les 20 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial avec 22 autres Beffrois. Il y a du coup de nombreuses visites qui sont organisées. Vous voulez que je donne peut-être les infos ou vous préférez les dire vous-même ?
Comme vous le souhaitez, je me suis fait un petit pense-bête pour les dates de visite.
Je vous en prie alors.
Je connais mieux l'histoire du Beffroi que la programmation avec précision. Donc effectivement, nous organisons un certain nombre de visites tout au long de l'année. Alors, un peu plus encore cette année du fait effectivement de cet anniversaire. Mais nous valorisons le Beffroi au long cours. Donc même en 2026, vous pourrez revenir au Beffroi. Les 17 et 20 décembre, nous proposons donc une visite familiale au Lampion. Il reste très très peu de place. Donc si vous le souhaitez, allez vite sur amiens.fr. pour réserver votre visite. Les samedis 20 décembre et 27 décembre, nous proposons une visite du Beffroi en nocturne qui permet, en plus de découvrir l'histoire du Beffroi d'une manière un peu insolite, avec cette atmosphère nocturne, de découvrir en terrasse le spectacle Chroma, le spectacle de la cathédrale. Donc on organise cette visite dans le même temps que le spectacle Chroma, pour bénéficier d'un autre point de vue sur le monument. Et enfin, chaque week-end, nous ouvrons en libre les samedis après-midi, donc encore les 20 décembre et 21 décembre, samedi, dimanche, pour pouvoir profiter aussi en visite libre du monument.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup d'avoir raconté cette belle histoire du Beffroi, un monument emblématique d'Amiens. Merci beaucoup, Émilie.
Merci à vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup Aline et Émilie Messian pour cette interview. Tout de suite, on vous propose d'écouter Hardly Ever Smile Without You de Poison Girlfriend. De retour sur Info Club Sandwich, la chronique de Mathéo vous propose de plonger dans l'univers fictionnel de Vince Gilligan.
Que se passerait-il dans un monde où l'individu n'existerait plus ? Un monde où chaque personnalité s'effacerait au profit d'une intelligence collective. Un monde où l'humanité ne serait plus la somme des individus qui la composent, mais une masse uniforme et interconnectée. Ce pitch, c'est le point de départ de la série Pluribus. On y suit Carole, une romancière à succès un peu au bord du gouffre. Et notre Carole, elle se retrouve être la seule personne au monde immunisée contre la propagation d'un virus d'origine extraterrestre. Et pas n'importe quel virus. Pas le genre qui décime l'humanité. Pas non plus le genre qui nous transformerait en zombies. Ce virus, il fait précisément l'inverse. Le genre de virus qui a la particularité non pas de détruire mais d'unir la population mondiale dans une forme de conscience collective pacifique et heureuse. Dans cette nouvelle humanité, finit la tristesse, l'anxiété ou la colère. Tout le monde est heureux, joyeux, serviable et souriant. Carole, notre personnage aux frontières de la dépression, se retrouve donc engagée dans une lutte qui l'oppose au reste de l'humanité avec une seule mission, sauver l'humanité de cet étrange virus qui rend tout le monde heureux. À ce pitch ambitieux se rajoute le fait que cette série n'est pas pilotée par n'importe qui. C'est Vince Gilligan qui est aux manettes. Pour ceux qui ne le savent pas, on parle de la personne qui est derrière la création de deux des plus grandes séries d'histoire, Breaking Bad et Better Call Saul. Et rien que ça, ça devrait normalement suffire pour que vous lanciez la série. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de la série, mais sans trop en dévoiler, vous vous doutez bien que le mystère fait partie intégrante de l'expérience. Ce qui fait de Pluribus une série qui vaut le détour, c'est son grand détournement des codes de la série apocalyptique. Pas de building qui explose, pas de tsunami qui ravage la Californie ou que sais-je encore. Ici, la fin du monde se déroule dans le plus grand des calmes, en toute douceur. Une fin du monde bien plus philosophique que matérielle, où il est davantage question de la colonisation des esprits que de guerre nucléaire. Et le grand tour de force de la série, c'est au final de nous faire dire « Elle est pas si mal que ça cette fin du monde, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, alors après tout, pourquoi moi j'y prendrais pas part aussi ?» Mais le génie de Vince Gilligan ne s'arrête pas là. Plus les épisodes passent, plus la série ne cesse d'interroger ce qui fait l'essence de notre humanité. Si le bonheur absolu de l'entièreté de la planète se paye au prix de l'effacement de la personnalité, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Adopter un système de pensée unique permettrait-il à l'humanité d'éviter toute forme de conflit ? Enfin bref, la série pose un nombre incalculable de questions philosophiques qui vous feront à coup sûr bouillir le cerveau. Je ne peux donc que vous conseiller de foncer voir Pluribus, c'est disponible en streaming à raison d'un épisode par semaine.
Merci d'avoir écouté Info Club Sandwich. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur radiocampusamiens.fr et pour rester dans l'univers mystérieux de Pluribus, on se quitte sur Poison de Lelo.
Maintenant qu'elle a goûté le poison, elle veut plus rien d'autre, elle veut plus rien voir, elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Je le vois quand tu danses pour moi, quand tu danses pour moi, vraiment t'es là, t'es en transe pour moi. Quand tu danses pour moi, vraiment ralentir à peine, tout va trop vite. Putain c'était bon ce qu'on s'était dit. Crois bien qu'elle en perd la raison, fruit de la passion trop empoisonnée. Elle veut de moi dans son monde, mais c'est déjà mort, tout est cloisonné. J'fais le mal toute l'année, appelle-moi pour planer. On est déjà condamné, moi et deux, trois potos cramés. J'fais élever dans une allemande, téléphone bip, bip, y'a de la demande. Tu sais ce qu'elle cherche, tu sais qu'elle est dans le manque. Parce qu'elle a goûté le poison, elle veut plus rien d'autre, elle veut plus rien voir, elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Je le vois quand tu danses pour moi, quand tu danses pour moi, vraiment t'es là, t'es en transe pour moi. Quand tu danses pour moi, vraiment ralentir à peine, tout va trop vite. Putain c'était pas ce qu'on s'était dit. Pilote ma vie sans les mains, 220 km/h.
poser tes yeux sur les miens. Ce fut ta première erreur. Je te disais que ça mènerait à rien, mais toi tu n'écoutais rien. Donc on est allé plus loin, tant qu'on a créé des liens. Fuck cette life, oh my god. Faut que je sorte cette chambre avant l'aube. Elle veut plus, elle veut jusqu'à l'overdose. Me demande pas mon avis, tu sais bien que je voulais pas en arriver là. Je voulais pas faire couler les larmes. Je me demande si je suis bon qu'à faire le mal. Quelle est la couleur au fond de mon âme, shit. Et je crois qu'elle est restée bloquée dans la matrice. C'est parce qu'elle a goûté le poison. Elle veut plus rien d'autre, elle veut plus rien voir, elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Je vois quand tu danses pour moi, quand tu danses pour moi. Vraiment t'es là, t'es en transe pour moi. Quand tu danses pour moi, vraiment ralentis à peine, tout va trop vite. Putain c'était pas ce qu'on s'était dit.